Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa Nummer 1.
This is Europe number 1.
Il fera jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidable.
Salut les copains.
L'émission
de Daniel
Philippe. Du cœur au boulot. Wow, Mélodie Parade, Gérard Klein.
Troisième but, 3-0.
L'homme est à la lune.
Et pas le feu en tout cas.
Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile de cieux.
Pulpeux comme la pêche.
Bonjour aux enfants d'Europe 1, merci d'être fidèles à ce rendez-vous qui est un peu une réunion de famille tous les dimanches entre 10 et 11 heures. Aujourd'hui, dernier volet de la saga commencée voilà deux semaines, consacrée à l'Olympia et à toutes ces années de vie commune avec Europe numéro 1. Et toujours pour nous accompagner, un orfèvre du music hall, l'éclaireur de l'Olympe, qui en fut le directeur artistique, monsieur Jean-Michel Boris. Salut Jean-Michel.
Salut.
Merci d'avoir accepté le principe de ces trois représentations un peu exceptionnelles dans les enfants d'Europe 1. On avait terminé l'épisode précédent sur un concert de folie et de légende, celui d'une diva orientale, Oum Kalsoum, qui marque la fin des années 60. La décennie suivante va également être riche et surprenante, vous allez l'entendre. Mais elle va également être celle des choix, pour cause de difficultés financières, de nouveaux choix évoqués par Bruno Cocatrix sur l'antenne d'Europe numéro 1. Bruno Cocatrix, interrogé alors par Gilles Schneider.
On a dit que vous renonciez, je crois que ce n'est pas tout à fait exact. Disons qu'il va y avoir une transformation de l'Olympia. Pourquoi ?
Eh bien, parce que il y a, si vous voulez, dans toute exploitation, deux colonnes, la colonne des recettes et la colonne des dépenses. Bon, la colonne des recettes a monté régulièrement, mais la colonne des dépenses a monté encore plus vite. Bon, donc l'équilibre risquait d'être faussé un jour, et c'est contre ce risque que j'ai été obligé de prendre une décision. Je suis obligé non seulement de quitter ce milieu de music hall pour me plonger dans un autre milieu. Disons simplement que le grand music hall, tel qu'il existe à l'Olympia, et tel qu'il n'existe plus d'ailleurs en Europe, disparaîtra dès le mois de mai.
Mais c'est un peu le prestige de Paris qui s'en va, et en conséquence, elle va vous demander au conseil municipal ou au ministère des Finances de faire un effort, de vous aider.
Et ils ne font rien. Pourquoi ? Pour une seule raison, et celle-là qui est absolument incompréhensible. Ils me répondent simplement, nous avons besoin d'argent, vous nous en rapportez beaucoup, car effectivement, je leur en rapporte tellement que je rapporte plus d'argent à l'État que tous les autres théâtres réunis, et nous avons besoin de cet argent. Mais quand ils vont plus l'avoir du tout, ça va tout de même être beaucoup plus grave. C'est complètement idiot. Dès le mois de septembre, l'Olympia présentera des comédies musicales. C'est même pas pareil pour moi, enfin, mais ça me peut-être un peu personnel. Évidemment, ça aura un gros avantage pour moi, ça me classera dans la catégorie des théâtres. Alors là, je deviendrai un personnage beaucoup plus respectable, probablement, puisque à partir de ce moment-là, mes taxes deviendront beaucoup moins élevées. Car c'est ça qui est insensé. On a l'impression de payer beaucoup d'impôts parce qu'on n'est pas respectable. C'est pas respectable le music hall, c'est pas respectable la chanson. On a l'impression qu'on est obligé de lever la main en demandant « Monsieur, est-ce que vous me permettez de chanter ? Est-ce que c'est pas honteux de chanter ?»
Et le musicorama que vous organisez avec Lucien Maurice, lui, continuera sa carrière à l'Olympia.
Ah bah évidemment, d'ailleurs... Ce musicorama représente tellement de souvenirs pour Lucien et pour moi que Je ne vois pas au monde comment nous pourrions nous en séparer.
On mesure pas complètement la situation à cette époque, Jean-Michel. Je veux dire, l'Olympia, c'est un vrai succès, et pourtant, ça rapporte pas d'argent.
Et pourtant. Ben, c'est extrêmement difficile, et c'est tous les matins une course à l'équilibre financier dont j'ai quelques souvenirs difficiles à remémorer, parce que vraiment ça a été des périodes, ben, je sais pas, jusqu'à la fin des jours de Bruno, tous les matins on se trouvait avec une échéance énorme qu'il fallait couvrir avant midi. Alors on a fait des prodiges, on est arrivé à tenir le coup, mais au prix de notre santé, au prix de la santé de Bruno d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il appelle le grand musical dont il a l'air de faire son deuil?
Ben, le grand musical, c'était ces spectacles avec une deuxième partie, un grand orchestre, et une première partie avec un ballet, avec des attractions, avec des chanteurs en début de carrière, des chanteurs affirmés qui seront peut-être les vedettes de demain. C'était ça le vrai musical, il était là. Maintenant, quand il dit on va faire de la comédie musicale, ben, c'est une menace qu'il brandit à bout de bras, et puis finalement qu'il ne mettra jamais à exécution, parce que quelque part...
Il ne va pas y en avoir, hein. Il ne va pas y en avoir des comédies.
Bien sûr que non. La seule comédie musicale qui n'en est pas une, c'était la revue de Joséphine Baker. Effectivement, on s'est aperçu que c'était très bien, que ça a très bien fonctionné. Je ne me rappelle plus la date de la revue de Joséphine Baker. Ça a très bien fonctionné, mais pendant un an, on a perdu tout contact avec les autres. Ce qui fait que tout d'un coup, quand Joséphine Baker s'arrête, ben, on se retrouve avec une programmation nulle, difficile à faire. Donc, quelque part, on ne peut pas faire ces longues périodes. Et d'ailleurs, lorsque Arnaud Delbar est arrivé à l'Olympia, je lui ai dit, tu sais, mon petit Arnaud, moi je te confie l'Olympia, j'espère que ça te plaît, mais il y a une chose extrêmement importante, ne fais jamais de trop longue durée. Parce que les trop longues durées font que tout d'un coup, cette salle, ben, ma foi, elle disparaît petit à petit, puisqu'il n'y a plus qu'une vedette qui va pendant 5-6 mois cumuler l'intérêt du public, et naturellement l'intérêt des médias va aller en diminuant. Donc il faut repartir à zéro après.
On entend Bruno Coquatrix dire que l'Olympia rapporte plus que tous les théâtres réunis.
Ben, c'est vrai que c'est une salle qui fonctionne énormément, et bon, c'est vrai que Bruno a essayé que cette salle rapporte le maximum. Quand je pense quand même qu'on faisait le nombre de séances qu'on faisait en une semaine, c'est assez affolant, et en faisant autant de séances, mettons 4 le samedi, 3 le dimanche et une le lundi, pas de relâche, et puis après tous les autres jours de la semaine, plus tout ce qu'on pouvait faire à côté, eh ben ma foi, c'est vrai que ça faisait, par payer un certain nombre de chiffres, de millions de taxes parafiscales, par exemple, assez importante, et par rapport à l'ensemble des théâtres, c'est vrai que je pense qu'on devait être pas mal.
En tous les cas, le public ne va pas vraiment sentir ses problèmes financiers, il ne va pas avoir trop à se plaindre d'ailleurs de la programmation, tant elle apparaît riche et diverse au début de ces années 70. Rien que du bon, pour tous les goûts, des talents confirmés ou des vedettes désormais affirmées, comme Michel Polnareff, qui revient début 70 sur une scène de l'Olympia où il était déjà venu 4 ans plus tôt, en 66, mais pour seulement 4 chansons, dont déjà quelques tubes.
Celui qu'on voit pour la première fois sur scène et qui a déjà conquis tant de sympathie, suscité tant d'enthousiasme, Michel Polnareff. Il apparaît à son piano, ce qui n'étonne qu'à moitié tous ceux qui savent quel excellent musicien il est. Michel Polnareff. Votre silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir m'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si, je devais y brûler ma vie. Love me, je suis fou. Vous me tenez toujours.
c'est du direct. Hein.
Ah oui, oui.
on a reconnu la voix de Robert Marcy, animateur de Musicorama, qui présentait Paul Naref. On parle un peu de Michel Paul Naref, dont le retour est annoncé dans quelques semaines en France. Qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui rendait les fans de Paul Naref hystériques? Quel personnage est-il?
Un personnage vraiment hors du commun. Un magnifique artiste, musicien, une voix étonnante. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. La voix n'a pas bougé. Je pense que ça va être un spectacle magnifique. Mais à côté de ça, une espèce de folie qui fait que tout d'un coup, ben, le personnage est attirant. Il attire les filles. C'est indiscutable. Ça, c'est le potentiel le plus important. Les filles soient là, c'est très important. Et puis, je pense que Paul Naref, ben, ma foi, il a écrit tellement de belles chansons et qui restent dans l'inconscient des gens. Je vois pas très bien comment on pourrait se débarrasser de ce garçon.
Vous avez tout de suite senti la vedette? Les premiers contacts avec lui, vous vous souvenez, non?
Ah ben, toute façon, les contacts super sympathiques, détendus, heureux. Non, on sent la vedette quand il est sur le plateau, parce qu'il se passe quelque chose. Mais là, dans les coulisses, on sent un homme qui a envie de s'amuser, de rigoler, de parler. Il a un bon baratin, il est bien. Moi, j'aimais bien ce garçon. Quoi.
Il y a eu un malentendu avec la France, non?
Non, le malentendu, c'est qu'il est tombé sur des gens qui l'ont escroqué, et il s'est trouvé dans des situations fiscales absolument désastreuses, qu'il a été obligé de filer aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour lui, et c'est surtout ça. Bon, il a fait confiance à des gens qui ne méritaient pas sa confiance et qui lui ont fait qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain, une main devant, une main derrière.
Vous êtes resté souvent et longtemps en contact avec pas mal de vedettes, encore aujourd'hui?
Bon, écoutez, à chaque fois qu'il est possible que je les rencontre, je les rencontre et ils sont extrêmement gentils. Et je dois dire qu'il y a à peu près un mois, je crois que c'était au Prix Constantin, j'étais dehors, on me tape sur l'épaule, on me dit il y a quelqu'un qui veut te dire deux mots, et on me passe au téléphone, qui? Michel Paul Naref. Et j'en revenais pas, je lui dis mais dis donc Michel, tu te rappelles de moi? Il me dit oui, mais tu rigoles, comment je peux avoir oublié l'enfoiré qui m'a obligé à faire l'Olympia alors que je n'avais vraiment pas envie.
Intimide?
Non.
Non, pas du tout. Mais pourquoi il voulait pas faire l'Olympia?
Non, il avait fait un superbe Olympia, et puis Bruno lui dit, mais Michel, c'est archi complet, c'est la folie, comme on fait maintenant, et beaucoup de spectacles se font comme ça. Et tu reviens dans quelques mois à l'Olympia. Et Michel dit, ouais, et puis il dit oui quand même, finalement. Mais on sentait que c'était pas complètement confirmé. Donc j'ai été le voir en Tunisie pour insister, et là il vivait une vie absolument folle en Tunisie, dans une oasis du désert, et j'avais pas l'impression qu'il avait envie de revenir. Mais bon, on l'a forcé, il est revenu, et je dois dire que c'est vrai quelque part que ce retour ne s'est pas fait exactement dans les meilleures conditions, et il en a sûrement gardé un mauvais souvenir. Mais enfin, je vois que quand il m'a eu au téléphone, il était absolument adorable, qu'il y avait prescription.
Demandez la suite du programme, quelques très belles affiches, c'est dans quelques instants.
Marc Tronceau.
On se retrouve autour des Enfants d'Europe 1 avec Jean-Michel Boris, ancien directeur artistique de l'Olympia. Pour évoquer l'Olympia précisément, on est dans les années 70. Je vous parlais tout à l'heure de programmation riche et variée en ce début de décennie. Sur la scène de l'Olympia en 71 par exemple, on va aussi entendre ça. Keep Mountain High. Tina Turner, vous l'avez tous reconnu, avec son mari Ike, un couple qui sentait bien le soufre.
Hein. Ah oui, on peut pas dire. Hein, lui, c'est un véritable voyou, quoi. Une espèce d'ordure qui a tiré le maximum de sa petite Tina.
Il la battait, non?
Je pense qu'il la battait, ouais. Oui. Je pense que vraiment, il a fallu à un moment donné qu'elle prenne la décision de se tirer parce que vraiment, ça a tourné mal.
Alors qu'elle était plutôt tranquille, non?
Moi, j'avoue que j'étais très étonné quand elle a fait ce passage à l'Olympia. C'était un dimanche après-midi. C'était assez extraordinaire, je dois dire que l'ambiance dans la salle chauffait, surtout dès qu'elle entrait en scène. Mais quand elle sortait de scène, elle s'asseyait sur une chaise dans la coulisse.
Avant de re-rentrer à nouveau.
Et puis là, elle reprenait un tricot, elle tricotait. Bon, c'est quand même assez étonnant hein, de voir une dame qui en scène pète le feu, qui est absolument fout le feu à la salle, et quand elle rentre en coulisse, hop, elle reprend le tricot.
Avec sa tenue de scène.
Avec la tenue de scène.
Les paillettes et tout.
Oui, tout à fait. Ah non, c'est assez ébouriffant. Je sais pas si elle tricotait pour faire plaisir à Ike, lui faire un pullover ou un col roulé, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, elle le faisait.
Et Liza Minnelli en coulisses, ça donnait quoi?
Ah, Liza Minnelli, c'est un personnage très très fascinant parce que nous, on a eu la chance de connaître Liza tout au début. Liza, quand Bruno l'a prise à l'Olympia, elle n'était rien aux États-Unis. C'est l'Olympia, au fond, qui a été le premier détonateur de Liza Minnelli aux États-Unis quand elle est revenue, puisqu'elle a fait, à ce moment-là, elle a fait cabaret. Mmh. Et Liza, c'est un personnage qui parle français couramment, même maintenant, si elle parle pas, elle fait exprès, mais elle connaît très bien, parce qu'elle a été dans un collège en France. Et elle était absolument adorable, et elle considérait Bruno, elle lui avait laissé des petits papiers, et puis des beaux cadeaux, à mon papa Bruno, parce qu'elle adorait Bruno, qui lui avait finalement offert la plus belle chance de sa vie.
Elle l'appelait papa?
Elle l'appelait papa. Je pense que de toute façon, elle serait arrivée, parce que c'est un énorme personnage. Mais l'Olympia a été un petit plus, quoi.
Et puis il fallait dire Liza.
On l'écoute. Liza, oui. Liza.
Merci, vous êtes très gentil, hein. J'ai un grand problème dans ma vie. C'est mon nom. Beaucoup de gens m'appellent Lisa. Et ce n'est pas ça, pas du tout. Mon nom est Liza. Liza avec Z. Par exemple, quelqu'un dans le room me dit Hello, Lisa, ça va? Et moi, je dis ça boum, mais mon nom est Liza. Et ça arrive toujours. Attends, je vous expliquais en musique. C'est Liza avec Z, pas Lisa avec S, car Lisa avec S, space, pas Z, donc Z au lieu de S, Lai au lieu de Li, dites comment je dis donc Liza. Attends, je vais encore. C'est Liza avec Z, pas Lisa avec S, car Lisa avec S, space, pas Z, donc Z au lieu de S, Lai au lieu de Li, dites comment je dis donc Liza. Si mon nom était Ada, je serais Ada. Même à l'envers, ce serait Ada. Si je m'appelais Ruth, je serais Ruth. Avouez que Ruth, c'est insensé. Ou Sally, ou Margaret, ou Ginger, ou Faye. Mais si on est Liza, pour toujours expliquer. Non, c'est Liza avec Z, pas Lisa avec S, car Lisa avec S, mais pas donc Z au lieu d'S. Là, au lieu de Li, dites comment je dis donc Liza. You see what I mean? Je pense que la première chose à d'oublier est the Lee part of the Lisa. Li. Bleh. Non. Et lie dans Liza. Oui. Lie. Ça? Si? Et encore, je n'ai pas tout dit. Il y a une autre chose qui m'ennuie. Souvent, je tends quelqu'un sur mon chemin qui dit voyez, Lisa Minoli. Oh, Minoli. Oh, Miniola. Oh, Minoli. Oh, Minoli. Ça me brise la cœur et bien souvent j'en pleure. C'est M, I, puis deux N, puis I, deux L et I. Les douzaines et deux blés font par nous. Et encore deux L, puis les derniers. Prononcez cette si Minnelli, Liza Minnelli. C'est croyez-moi, la faute à papa. Si c'est comme ça, ça me fait mal. C'est si bête, j'en ai souvent. Hey! Liza avec Z, pas Lisa avec S, car Lisa avec S, face, pas donc Z au lieu de S. Lion de TikTok, moi je dis donc Liza, c'est aimé pour Zen, puis il faisait les douzaines et de blé, font pas nous, et on compte Zen, puis les derniers, promis ici, Minelli, Liza Minelli, it's easy, it's easy, it's lazy. No, Liza!
On a voulu vous faire écouter ça du début jusqu'à la fin. C'est une performance. Elle est tombée toute petite dans la potion magique des artistes.
Non, puisqu'elle est la fille de Judy Garland et qu'on avait eu la chance, la fois où Judy Garland est venue à l'Olympia, je crois que c'était dans les années 50. Et Liza, elle devait avoir, je sais pas moi, 6 ans, un truc comme ça. Et elle était au premier rang dans la salle. Et Judy chantait magnifiquement. D'ailleurs, ça a été une des dernières fois où elle chantait magnifiquement. Et elle s'assoit, elle fait monter sa fille sur le plateau, elle la prend sur les genoux et toutes les deux elles ont chanté. C'était un ravissement de voir cette petite fille qui ressemblait énormément à sa mère de chanter avec cette grande personnalité qui était Judy.
Je voudrais qu'on évoque un autre monstre sacré. D'une certaine manière, ça nous ramène au musical. C'est Jerry Lewis, immense comique. Par quel heureux hasard se retrouve-t-il à l'Olympia?
Eh bien, Bruno faisait son voyage à peu près d'une manière annuelle aux États-Unis pour voir qu'est-ce qu'il pouvait ramener. Et puis, la personne qui s'occupait de nous là-bas dit, et Jerry Lewis, l'acteur. Oui, Jerry Lewis a envie de faire une tournée, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un numéro. Ah bon? Ben écoutez, ça m'intéresse. Alors bon, discussion parce que financière énorme. Et puis surtout l'inquiétude, se dire ce personnage hors du commun, comment est-il? Les échos qu'on en avait étaient assez effarants et assez inquiétants. C'était un personnage, paraît-il, odieux, désagréable, prétentieux.
Donnait pas envie.
Enfin bon. On le fait venir, il arrive à Paris, Bruno me dit à moi et à mon assistant, mes enfants, il va falloir le couver celui-là, parce que faut surtout pas qu'il y ait le moindre problème. Mmh. Et je dois dire qu'on a passé 15 jours vraiment très très proches de Jerry, pratiquement tous les jours on était avec lui, dans les coulisses, dans sa loge, et ça s'est passé magnifiquement, et ça s'est passé tellement magnifiquement, qu'à la fin, le dernier spectacle, on a voulu tous lui offrir quelque chose. Et alors là, il y a une scène, je sais pas si elle a été enregistrée, on voit Jerry qui est là sur scène, et alors Bruno arrive et le remercie en public et lui amène un cadeau. Et puis ensuite, tout le monde lui amène un cadeau, mais les cadeaux les plus insensés, quoi. Des bouteilles de vin, une choucroute garnie, enfin n'importe quoi, c'était assez étonnant. Et lui, au milieu de tous ces cadeaux, heureux, je pense qu'il a gardé un souvenir de Paris, de l'Olympia, absolument magnifique. Il est revenu quelques années plus tard, mais c'est vrai que la magie était un petit peu...
Ovation à la fin.
Standing ovation, parce que c'est vrai que et il a trouvé à Paris et en France un public qu'il ne trouvait pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on le prend pour un rigolo, pour un guignol. En France, il y a quand même tout un tas de gens qui le respectent infiniment pour sa filmographie, pour tout ce qu'il a fait pour le cinéma.
Extrait d'une soirée hors du commun à l'Olympia avec Jerry Lewis.
Now we have the gospel singer. Qu'est-ce que c'est gospel? Gospel. Gospel, ça va. I don't know, but people like what they hear, and they are very successful, and I don't understand. Yeah, yeah, everybody get around here, ho! Brother, say you do well, and your sister love, and the brother love. Ha ha, ho, 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 ho. Look, if that's what people want, que Sara, Sara. I think it's ridiculous because I really can't understand it because I come, as I say, from a show business family. And I must show you what we believe is vitally important to retain some of the things that really started our business. So we dedicate this number to those of you that do appreciate the things in the past. If it brings a tear or a recollection, then our stroll down memory lane will not have been in vain. Mammy, mammy, the sun shines east, the sun shines west, and I just learned where the sun shines best. Mammy, my mammy, why my heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming, and I am sorry that I made you wait.
just learn where the sunshine best is on my dear little mammy, my sweet, warm, cozy, cuddly mammy. Why my heartstrings are tangled around. I love mammy, mammy, hear me now, mammy. I'm coming and I am sorry. I'm so sorry that I made you wait, mammy. Mammy, I'm coming.
Jerry Lewis à l'Olympia, dans la lignée de ces acteurs américains qui savent tout faire.
Ils savent tout faire.
Les comiques, les chanteurs.
Et alors, ce qui est merveilleux, je tiens à te signaler une chose, c'est que ce qu'on entend derrière, c'est-à-dire l'orchestre qu'on entend derrière, c'est pas un orchestre américain, c'est un orchestre français. L'orchestre de l'Olympia qui est resté pendant 7 ans à l'Olympia. Et chaque artiste américain qui est venu à l'Olympia l'a utilisé et est parti avec des souvenirs merveilleux étoilés de ce groupe-là, qui a été vraiment un groupe de musiciens hors du commun.
Dirigé par?
Dirigé à ce moment-là par chacun des chefs d'orchestre. Il y a eu tous les chefs d'orchestre qui ont dirigé cet orchestre, et là c'était le chef d'orchestre de Jerry Lewis.
Marc Tronceau.
Avec les enfants d'Europe 1, nous continuons de feuilleter le grand album de l'Olympia avec Jean-Michel Boris. 73, 74, on est dans un monde où Björn Borg s'affirme dans le monde du tennis, Emmanuel sort sur les écrans, le mouvement hippie est plus que vivace, Nixon démissionne, le Vietnam sort à peine de la guerre et on vient de terminer le périphérique à Paris. L'Inde, quant à elle, en a appelé à l'aide humanitaire quelques mois plus tôt, se trouve confrontée au problème des réfugiés du Bangladesh. L'Inde, dont l'un des porte-paroles se nomme Ravi Shankar, il va, en compagnie d'autres musiciens indiens, tenir la vedette à l'Olympia.
Depuis plusieurs années, vous m'avez vu et entendu jouer le sitar. Mais aujourd'hui, je vais tenir un autre rôle. Comme je viens de vous le dire, quelques-uns des plus grands musiciens de mon pays sont présents ici. Tous sont de merveilleux solistes dans leur domaine. Ce que vous allez entendre est une musique de groupe. Bien entendu, entre ces thèmes fixés, il y a une grande part d'improvisation laissée à chaque musicien. J'aimerais vous rappeler que toutes les formes de la musique indienne ont pour point de départ la voix humaine. Et maintenant, nous commençons avec un hymne de Veda.
Vous êtes bien sur Europe 1, contrairement à certaines apparences. Ravi Shankar, Jean-Michel, c'est un concert particulier, pour un invité très très particulier aussi.
Bah oui, une folie, comme on s'est offert. On a fait une nuit Ravi Shankar, c'est-à-dire que pendant une nuit, les gens ont plané. Ça planait vraiment dans la salle. Ça avait une drôle d'odeur. Hein. C'était bizarre. Hein. Dans tous les coins, ça fumait.
Ça faisait plus, non.
C'était le pétard circulait. Et je dois dire que c'était assez étonnant. J'ai même vu des gens en train de faire l'amour dans un coin de l'Olympia. Vraiment, c'était assez.
Ouais.
Oui, non, c'était très 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 gonflé. Hein. Mais bon, c'était une soirée qu'il fallait faire parce que Ravi Shankar est quand même un des grands musiciens et beaucoup d'artistes de la pop musique, en particulier
George Harrison
était un inconditionnel de Ravi Shankar.
Le fameux concert pour le Bangladesh, à l'initiative de George Harrison notamment, Ravi Shankar, si je me souviens bien, occupait toute une phase de disque.
C'était tout à fait logique.
Il y avait du monde.
C'était plein. C'était plein. Oui, non, mais il y a beaucoup d'instruments là. Beaucoup de gens aimaient cette musique-là. Même si elle donne envie de planer et pas du tout de regarder la scène, parce que sur scène il se passe pratiquement rien, quoi.
Il y en a eu quelques-uns des invités, on va dire, un petit peu hors normes, comme ça.
Oui, ben on a toujours essayé de varier la programmation, d'ouvrir les portes à des gens les plus divers. Ça c'était des années auparavant, lorsqu'on a offert la salle à la calotte chantante, c'était assez marrant.
À la quoi ?
La calotte chantante, c'était Brassens qui appelait comme cela un père qui, c'était le père Duval, qui chantait. Alors il chantait des chansons d'église. Alors dans la salle, on distribuait des petits manuels avec les chansons. La salle était à demi éclairée et le père Duval disait prenez à la page 4 la chanson. Et alors tout le monde chantait. Alors c'était Dieu est grand, Dieu est enfin des choses comme ça. Mm-hmm. C'était assez étonnant. Donc et nous on a toujours pensé que la diversité était la chose la plus importante dans la conduite de l'Olympia.
Jusqu'à quand ? Jusqu'à la mort de Bruno Coquetrix ?
Oh ben, vous savez, moi j'étais installé dans les pantoufles de Bruno, j'avais guère de raison de changer ce mode de cette attitude-là, donc ça a continué tout au long jusqu'à ce que nous partions, quoi.
Bruno Coquetrix qui disparaît à la fin des années 70, et ça va être aussi le début de la fin de cette complicité, j'allais dire presque familiale, avec Europe numéro 1.
C'était déjà la complicité avec Europe était déjà bien entamée quelques années auparavant. Bon, Europe venait de temps en temps, mais il n'avait plus d'exclusivité totalement avec l'Olympia, parce que quelques dirigeants de cette maison avaient souhaité mettre un fin à cette association, ce que j'ai beaucoup regretté, mais qui nous a permis aussi de faire des choses avec d'autres radios qui étaient en attente de pouvoir mettre le pied à l'Olympia.
Ouais. Alors, il va y avoir une période un peu particulière à suivre, avec de grands moments comme le retour d'Yves Montand sur la scène en 81. Ouais, c'est vrai que la salle était trop petite.
Trop petite, non ? Pourquoi ?
Non ? Je sais pas, j'ai retrouvé une interview où Yvan Levaille disait à Yves Montand est-ce que vous avez pas eu de problème avec la place, il y avait trop de monde peut-être pour la salle qui était trop petite.
C'était complet. Bon, Yves Montand c'était énorme, c'est vraiment la vedette française consacrée et que tous les Français, quel qu'âge ce soit, avaient envie de voir. Mais non, mais la salle lui convenait parfaitement, et lui il expliquait, il me dit tu comprends, si la salle est trop grande, eh bien on ne voit pas mes gestes, et quand je chante sur une balançoire par exemple, tu vois, on me voit pas avec les yeux faire le mouvement de la balançoire. Il était évident que si la salle était beaucoup plus grande, ceci dit, quelques années plus tard, malheureusement il l'a pas fait, il voulait faire le palais des sports de POPB, donc quelque part ces paroles là étaient déjà oubliées.
Alors il y en a un autre à qui la salle va convenir, il va le dire. Premier Olympia de Renault en 1982, Renault, il sait d'où il vient et il sait où il se retrouve.
Merci, bonjour. Bonsoir. Salut. Vous êtes venu alors ? Eh, vous avez vu où je suis là ? Enfin, où on est ? Olympia ? Pour nous tout seul ? Ouais, ça fait peur, n'empêche, hein, je vais te dire. Hein. Parce que je vous signale que d'où je vous parle, il y a eu Maurice Chevalier qui a chanté. Il y a eu les Beatles qui a chanté. Il y a eu Chantal Goya. Après, on va dire que je dis du mal. J'ai pas dit du mal, là, j'ai juste dit son nom. Et vous ? Alors, ça fait peur quand même. Il y a 3 semaines, le jour de la générale, là, je vais te dire, je fouettais. Hein, parce que le jour de la première, là, il y avait du beau monde, hein, du beau linge et tout, du gratin. Il y avait ma mère. Il y avait le professeur Choron et Ciné. C'est tout. Les autres, ils sont pas venus, dis donc. Remarque, tu me diras, les autres, je les avais pas invités. Après cette chanson qui est un subtil mélange de tendresse et de violence à la fois, comme ils disent dans les journaux, voici une chanson qui raconte la triste et lamentable histoire de Gérard Lambert.
Il est assez symbolique cet hommage de Gavroche à l'Olympia, non ?
Oui, tout à fait.
C'est sa salle.
D'ailleurs, le titre de son disque, ça s'appelle « Mon Olympia à moi », je crois.
Oui. Hein,
il me semble bien qu'il c'était pour lui quand même un grand plaisir, même s'il ne l'avouait pas. Bon, l'Olympia, ouais, c'est vrai que l'Olympia, tout le monde y est passé, donc il dit ça en rigolant. Mais quelque part, il était heureux d'y être.
Il en avait plein les mirettes, comme il aurait pu le dire.
Voilà, plein les mirettes.
Hein, c'est un peu le même type d'hommage que rendra sur l'antenne Jean-Serge, un des grands messieurs de la station à l'Olympia. Nous sommes alors en 92. L'Olympia est menacé et c'est comme si une partie d'Europe 1 l'était également. C'est ce que va dire Jean-Serge, interrogé par Stéphane Paoli.
L'Olympia, et surtout Musicorama, s'était montré ce que Europe faisait entendre. Alors, il est évident que Europe est née un an après la renaissance de l'Olympia, est née précisément avec un disque de Gilbert Bécaud, mmh. qui a été le premier disque diffusé par Europe, et il est évident que c'est un peu comme si une partie d'Europe était menacée de disparaître.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a peu de lieux comme ça dans le monde qui sont un peu des lieux mythiques. Parce qu'en France, en tout cas, pour devenir un grand artiste, il fallait passer par l'Olympia. C'était un label, au fond, l'Olympia. Hein.
C'est toujours un label. Parce qu'il y a eu une telle diversité dans le choix des vedettes, qui continue d'ailleurs avec la présence de deux vedettes comiques, Robin et Bedos. Mais il y a eu tout, il y a eu Oum Kalsoum, il y a eu les premiers rockers avec les animaux, il y a eu les quelques fauteuils arrachés à Sidney Bechet et à Bécaud.
Et Brel, Jean-Serge, est-ce que vous y étiez le soir où oui, Brel a enregistré à Amsterdam?
Ça, c'était un moment extraordinaire, et sans commettre d'indiscrétion, c'était un musicorama particulièrement pathétique, parce que Brel, sans rien dire à personne, avait enterré à Bruxelles sa maman l'après-midi. Et il est venu, il a tenu à venir chanter quand même, et c'était en direct.
Avec une tension, une intensité bouleversante. Hein.
Une fois de plus, il s'est dépassé.
Alors on va se mobiliser, Jean-Serge, on ne peut pas laisser faire, c'est la disparition de l'Olympia, c'est pas possible.
Je pense que la mobilisation, elle doit être faite par un média aussi attaché à l'Olympia que vous, que Europe. Et le président actuel d'Europe, Franck Thénault, a organisé suffisamment de concerts avec Ella Fitzgerald, ouais. avec Ray Charles, avec Armstrong, pour Norman Granz, que je pense qu'il faudrait le mobiliser le premier.
L'Olympia était vraiment menacée de disparition?
Ben, c'était en 92, ouais. Là il y avait tous les problèmes avec la Société Générale, et que la Société Générale voulait faire vraiment un Olympia, d'accord, en construisant un Olympia, mais complètement au sixième sous-sol, et qui n'aurait plus les caractéristiques de l'Olympia. Donc c'est à partir de 92 que commence la grande bagarre, le grand bras de fer entre la Société Générale et l'Olympia, et le métier, parce que le métier est derrière l'Olympia, complètement. Le métier, les chanteurs, les chanteuses, les humoristes, tout le monde donne son point de vue et fait le maximum dans toutes les radios, dans toutes les télévisions, justement pour sauver l'Olympia, pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée, la solution qui a été trouvée, qui est celle que vous connaissez maintenant.
Une pause, et on se retrouve pour la dernière partie du spectacle.
Les enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
Dernière partie de cette émission consacrée à l'histoire de l'Olympia et sa vie commune avec Europe numéro 1, en compagnie de Jean-Michel Boris, qui a été le directeur artistique de l'Olympia. Bon, 92, effectivement, il y a une vraie menace sur l'Olympia, mais il y a des solutions qui vont être trouvées et des travaux qui vont commencer, c'est ça,
Jean-Michel? C'est-à-dire, de toute façon, on a une chance. D'abord, l'Olympia a une chance, c'est qu'il y a un ministre, ce ministre de la Culture, Jacques Lang, qui ne veut pas laisser faire une opération comme cela. Donc, il fait vraiment le maximum de pression sur la Société Générale. Il y a tout le métier en général, les producteurs de spectacles, les artistes, qu'ils soient chanteurs ou qu'ils soient humoristes, tout le monde participe à cette pression. On voit même Bedos à la télévision menacer, dire si la Société Générale fait quoi que ce soit contre l'Olympia, la recréation de l'Olympia, eh bien moi je vous demande d'enlever vos comptes de la banque. Enfin, vraiment, il y a une mobilisation formidable, et puis finalement on trouve un modus vivendi, un consensus entre la Société Générale et l'Olympia, c'est-à-dire que l'Olympia sera reconstruit à l'identique, plus enfoncé dans le sol, puisqu'il est enfoncé de deux étages, mais que ça se sentira pas, enfin il y a toute une organisation technique qui est faite autour, que l'Olympia précédent ne connaissait pas.
Et tous les travaux sont pas terminés quand en 95 il y a un coup de tonnerre.
C'est les légendes qui reviennent à l'Olympia après je ne sais combien d'années, et ça je dois dire que c'est aussi un moment qui touche énormément.
Reportage sur l'antenne d'Europe 1, Laurent Delpech.
21h40, les projecteurs blancs éblouissent la foule. Les Rolling Stones remontent sur la scène de l'Olympia. Un premier quart d'heure musclé après quelques mots d'accueil du maître des lieux, veste noire sur chemise bleue et t-shirt voodoo blanc. La scène est baignée de vert, puis de bleu, lumière douce pour une demi-heure magique, acoustique. Mick Jagger et Keith Richards assis à la guitare face à une marée de briquets et de mains tendues. puis doucement tout redémarre. Like Rolling Stone, la reprise de Bob Dylan. 22h45, I Go Wild sur fond rouge et jaune, le décor change, un fil étendu derrière la batterie et de chaque côté de grands rideaux façon panthère. Face à un public qu'il peut presque toucher, Jagger en fait des tonnes, ses déhanchements sauvages font chavirer les fans du premier rang, les évanouis sont évacués. Keith Richards chante deux titres, les mêmes qu'à Longchamp, et Mick Jagger revient entre les rayons laser, Star Me Up, Jumping Jack Flash en rappel. 23h40, Charlie Watts jette ses baguettes, le concert du siècle est terminé. Les fans en voulaient plus, les personnalités présentes sont ravies. Carla Bruni.
C'était super, bravo, merveilleux, fantastique.
Patrick Bruel.
C'était magnifique.
Et Étienne Rodagil.
C'est dans ces conditions-là que ça vaut le coup de les voir. Là, c'est du rock'n'roll.
Et Jack Lang.
Formidable.
Oui.
Formidable.
Bon, on a vécu un moment fort quand même, non? Je crois que c'est un concert qui restera dans la mémoire. Hein.
Les 2500 spectateurs de l'Olympia n'ont pas fini de rêver à cette soirée.
C'est les meilleurs, rien à dire.
Je ne m'attendais pas à ça, tellement c'était bien. Un rêve pour eux et pour nous qui se réalise. Eux, ils étaient d'enfer et nous, on attendait ça.
Le concert du siècle, quoi. Le concert de ma vie.
Vous avez l'air épuisé.
Pendant deux heures, sauter, chanter, crier et tout. Non, mais c'était vraiment... On devrait même plus aller à un concert après, quoi. Parce que celui-là, c'est vraiment le seul unique, le premier, le dernier, c'est tout. Il n'y a pas de mots, quoi.
Époustouflant, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'était hallucinant.
Bah, dans 10 ans, hein, à Olympia, on recommence.
On pourrait presque dire qu'une même salle qui aura réussi à avoir les Beatles et les Rolling Stones, c'est une
ouais,
salle
c'est pas mal,
historique.
Pas mal, tout hein? Ça. Non, il y a un beau palmarès.
Ouais. Un souvenir des Rolling Stones.
Les Rolling Stones, mais ce qui s'est passé, le premier passage des Rolling Stones, on remontait à la préhistoire, c'était d'ailleurs avec Europe 1, mais c'était dans des conditions absolument hallucinantes, parce que je pense que les Stones qu'on entend maintenant, bien, quand ils sont passés ce premier spectacle à l'Olympia, on les entendait pratiquement pas, les sonos étaient pas à la hauteur de ce que le public demandait, c'est-à-dire que le public hurlait tellement fort qu'on n'entendait pratiquement pas les Rolling Stones.
Ce sera tout de même la période de travaux.
Ben, là, à un moment donné, il faut fermer naturellement, ouais. Parce que l'Olympia sur ses poteaux, il tient le coup dans des conditions extrêmement difficiles, parce que l'hiver 96, on l'a passé vraiment complètement congelé. Parce que imaginez-vous que l'Olympia, il est sur des poteaux, que le vent tourne autour de l'Olympia, qu'il est impossible de chauffer l'Olympia. On grelottait dans cet Olympia. Et finalement, en avril 97. On ferme l'Olympia, le 14 avril 97, et novembre 97, on rouvre l'Olympia.
Avec qui?
Ça, c'était une gageure, avec naturellement celui qui a été toujours le grand fidèle de cette salle, Gilbert Bécaud.
Un petit détail, parce que vous disiez tout à l'heure que vous avez suivi les travaux avec l'architecte. Il y a un petit détail.
Eh bien, il y a un petit détail, effectivement, demandé par Gilbert Bécaud, parce que Gilbert Bécaud était très ami d'Anthony Béchur, et il avait dit à Anthony, il faut absolument qu'il y ait une espèce de lucarne de communication au-dessus de la scène, de communication avec
l'au-delà.
Et effectivement, je pense que ça permet à toutes ces âmes qui ont vécu l'Olympia, que ce soit celle de Bécaud, celle de Piaf et de tant d'autres, de revenir dans cette Olympia, de l'habiter constamment, et je pense que Bruno y est souvent.
Bécaud qui fait renaître l'Olympia pas loin d'un demi-siècle après en avoir été la première vedette, ça a dû faire pas mal d'émotions. Gilbert Bécaud à l'Olympia, souvenir.
Et pourtant, ça ne me fait pas peur. La radio.
radio, la télé sont là pour me donner le temps et l'heure. J'ai ma chaise au Café du Nord, j'ai mes compagnons de flipper. Et quand il fait trop froid dehors, je vais chez les petites sœurs des cœurs. Ah, tu vois, la solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Peut-être encore pour quelques loups, quelques malheureux sangliers, quelques paladins, quelques fous, quelques poètes démodés. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un, il y a toujours une société, non? Non, ce n'est pas fait pour les chiens de club Méditerranée, hein? La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Tu te trompes, petite fille, si tu me crois désespérée. La nature a horreur du vide et l'univers t'a remplacé. Si je veux, je peux m'en aller à White, à Woodstock ou ailleurs, et y retrouver des milliers qui chantent pour avoir moins peur. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas.
La solitude, ça n'existe pas. Gilbert Bécaud, Musicorama Europe 1, enregistré à l'Olympia en 1970. Merci Jean-Michel.
Merci.
Merci d'avoir passé ces trois dimanches avec nous. Merci à l'Enfant d'Europe 1 et de l'Olympia réunis, je peux le dire comme ça.
Oui, tout à fait.
Et merci à vous tous de l'autre côté des ondes. Rendez-vous dimanche prochain, même jour, même heure, même pomme, comme l'a écrit Patrick Bruel. Et en attendant, bonne fin de journée, bonne semaine et très bonne radio.